Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'importance du réveil. Vraiment, c'est vrai. Tellement que c'est important. Nous arrivons à l'étude numéro 5. Cette étude sera assez courte, car nous allons cibler pour l'instant uniquement l'Ancien Testament. Le numéro 6 sera un peu plus long, parce que nous arrivons dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a eu 4 grands réveils à cette époque. Ils n'étaient pas comme ceux de la Nouvelle Alliance, mais néanmoins, il existait certains points en commun. Premièrement, il y avait également la repentance. Deuxièmement, l'abandon du péché. Troisièmement, le rejet de l'idolâtrie. Quatrièmement, le retour à Dieu. Cinquièmement, la réformation et la restauration. Sixièmement, la restauration du temple. Septièmement, la sainte parole de Dieu était enseignée et observée. Huitièmement, il en résultait toujours la faveur de Dieu et sa bénédiction. Neuvièmement, en général, Israël demeurait en paix durant le règne des rois justes. Néanmoins, si Israël se trouvait dans l'obligation de partir en guerre, il remportait toujours la victoire sur ses ennemis. Donc, le premier réveil a eu lieu au temps d'Élie, le grand prophète. La date, c'était en 906 avant Jésus-Christ. Notez la référence biblique, 1 Rois, chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 46. L'auteur du livre des Rois développe le récit du grand réveil sous le prophète Élie au temps du roi Achab et de sa femme Jézabel. Cette femme était méchante et païenne. La persécution était grande et Jézabel avait même tué beaucoup de prophètes. 1 Roi, chapitre 18, verset 4. Le plus grand nombre parmi la nation s'était mis à adorer Baal. Ceux qui refusaient d'en faire autant risquaient de perdre leur vie et ils vivaient donc dans la crainte. Ce fut au milieu de cette oppression qu'Élie se manifesta, mettant les prophètes de Baal au défi de montrer la supériorité sur Jéhovah de leur Dieu en appelant le feu divin. Après leur échec, Élie prépara l'autel, le bois et le sacrifice. Et après avoir tout saturé d'eau, pour que tous puissent voir qu'il ne trichait vraiment pas, il provoqua l'Israël rétrograde en priant Dieu à haute voix. Il a dit avec sa voix forte, « Réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi, et que ce peuple sache que toi, Éternel, que toi tu es Dieu, et que tu as ramené leur cœur. » Or il n'a même pas prié, que voilà que déjà est tombé le feu. Il vivait, Élie, tellement près de Dieu, que ses pensées étaient en sorte tout du long des prières. Dieu envoya donc le feu, et lorsque le peuple a vu cela, ils sont tombés sur leur face et se sont écriés « En effet, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, c'est lui qui est vraiment Dieu. » Ce réveil a mis fin pendant un temps au culte de Baal. Jamais plus Jézabel n'aurait le contrôle et la puissance d'autrefois. Après 3 années de sécheresse, Dieu envoya la pluie du ciel et tout Israël proclama la grandeur de Jéhovah. Deuxièmement, le deuxième réveil, c'était en 955 avant Jésus-Christ. Le lieu, c'était Juda. La référence biblique, veuillez la noter, 1 roi, chapitre 15, verset 9 jusqu'au verset 25, et 2 chroniques, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 15. Le prophète, c'était pas seulement un, ils étaient Atsaria, Hanani et Jéhu. Le roi s'appelait Asa de Juda. Donc le deuxième réveil fut plutôt un renouveau. Asa continua les 3 mauvaises années du règne de son père Abijam. Sa grand-mère était Maaka, c'était la fille, ou plus probablement, la petite-fille d'Absalom. Et malheureusement, elle était idolâtre. Lorsque il monta sur le trône, Jéroboam, roi d'Israël, qui avait érigé des veaux d'or, était dans sa 20e année de règne et il était idolâtre sur les 10 tribus du Nord. Et il avait encore 2 ans à vivre. Asa était un roi juste. Il ôta les autels des dieux étrangers, il ôta leurs hauts lieux et brisa les statues. 2 Chroniques, chapitre 14, versets 3 et 4. Asa ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, et de pratiquer la loi et les commandements. Il renvoya aussi du pays les fameux sodomites, selon 1 roi, chapitre 15, verset 12. Il contraignit sa grand-mère Maaka à abdiquer, donc à cesser de régner. Celle-ci avait été la 3e épouse de son grand-père Roboam et elle était la préférée. Il semblerait que son pouvoir était grand en tant que reine-mère, et du fait qu'elle était très zélée dans son idolâtrie. Il détruisit son idole personnelle et même alla jusqu'à la brûler dans la vallée de Cédron. Mais il n'était pas parfait. Il n'a pas fait disparaître tous les hauts lieux, malheureusement. Et il a fait alliance avec Ben-Hadad, le roi de Syrie, utilisant pour cela l'argent et l'or du trésor de la maison de l'Éternel, selon 1 roi, chapitre 15, versets 18 et 19. Après 40 années de règne, il mourut il mourut d'une maladie des pieds. On pense que c'était la goutte. Troisièmement, le troisième réveil, c'était en 726 avant Jésus-Christ. Le lieu à nouveau Judas. Veuillez noter la référence biblique. 2 Rois, chapitre 18, versets 1 à 8, et le verset 21, ainsi que 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 36. Le prophète, c'était Nahum, et le roi, c'était Ézéchias, roi de Juda. Ce troisième réveil a eu lieu en Juda pendant le règne du roi Ézéchias. Il avait 25 ans au début de son règne et sa mère était Abi, fille de Zacharie. Il suivit son père Acha, qui était roi pendant 16 ans, selon 2 Chroniques, chapitre 28, verset 1. Le règne d'Acha avait été mauvais pour Juda, car c'était un homme faible, faisant beaucoup de compromis. Il s'adonna à l'idolâtrie, adorant les images taillées et offrant des sacrifices aux démons. Il s'appuyait sur les astrologues pour prendre ses décisions. Notez 2 Rois, chapitre 23, verset 12. Et il alla jusqu'à brûler même son fils en sacrifice à Moloch, selon 2 Rois, chapitre 23, verset 12, et 2 Chroniques, chapitre 28, verset 3. Il rapporta de Damas à Jérusalem les plans de construction de l'autel servant aux idoles et aux démons, selon 2 Rois, chapitre 16, versets 9 à 11. Et il en a fait construire le modèle pour remplacer l'autel qui avait été donné par l'Éternel à Moïse puis à David. Il ferma le temple de Dieu et la Bible nous dit qu'à cause de lui, Dieu abaissa Judas, selon 2 Chroniques, chapitre 28, verset 19. Lorsque Ézéchias devint roi, il avait fort à faire pour que la nation puisse revenir à Dieu. On peut se poser la question difficile, comment a-t-il fait cela? Oui, comment le roi Ézéchias a pu ramener la nation à Dieu. Notez 2 Rois, chapitre 18, versets 1 à 6. Nous allons voir cela ensemble tranquillement pour comprendre. Premièrement, Ézéchias a ôté les hauts lieux d'idolâtrie. Premièrement. Deuxièmement, il a brisé les statues. Troisièmement, il a détruit le serpent d'airain. Pourquoi? Eh bien, voici la raison. Ce serpent d'airain, rappelez-vous, avait été fait par Moïse. Par Moïse dans le désert. Mais malheureusement, ce serpent d'airain est devenu pour eux une idolâtrie une idole pour tout le peuple. Deux Rois, chapitre 18, verset 4. C'est ce qui peut arriver et c'est malheureux. Quatrièmement, il a ouvert tout de suite les portes de la maison de l'Éternel et il l'a réparée. Cinquièmement, il a ôté tous les autels païens, selon 2 Chroniques, chapitre 30, verset 14. Sixièmement, il a ramené les Lévites et les sacrificateurs et il leur a restitué leur office. Septièmement, il leur ordonna de sanctifier et de purifier le temple, selon 2 Chroniques, chapitre 29, versets 15 et 16. Ils en étaient tellement contents qu'ils ont mis tellement du zèle pour tout achever dans les plus brefs délais, c'est-à-dire dans les 8 jours, juste à temps pour la Pâque, selon 2 Chroniques, chapitre 29, verset 17, et chapitre 30, verset 5. Huitièmement, il ordonna que tous les ustensiles rejetés par achat soient rapportés et sanctifiés. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 19. Neuvièmement, il rétablit dans le temple la musique et la louange, selon 2 Chroniques, chapitre 29, versets 15 à 30. Dixièmement, les sacrifices furent à nouveau offerts à l'Éternel comme autrefois. Onzièmement, il adressa des invitations au royaume du Nord afin qu'il puisse revenir pour la Pâque dans la maison de Dieu. À cette époque, beaucoup d'entre eux avaient été amenés en captivité. Il les reprit à cause de leurs péchés. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 8, jusqu'au verset 12. Douzièmement, il ramena la joie à Jérusalem, selon 2 Chroniques, chapitre 30, verset 26. Treizièmement, les gens pouvaient recommencer à porter leur dîme au temple, selon 2 Chroniques, chapitre 31, versets 5 et 6. Et quatorzièmement, il a mis la joie, oui, la joie dans les cœurs du peuple de Dieu. Tout ceci représente encore de nos jours ce qui se passe lorsque le peuple de Dieu se réveille. Le quatrième réveil, c'était en 641 jusqu'en 610 avant Jésus-Christ. Le lieu, c'était de nouveau Juda. La référence biblique, veuillez noter, 2 Rois, chapitre 22, versets 1 à 23 et chapitre 30, je crois, je veux vérifier, oui, c'est 2 Rois, chapitre 21, versets 1 à 23, et aussi, excusez-moi, le verset 30. Ensuite, vous pouvez noter également 2 Chroniques, chapitre 34, verset 1 jusqu'au verset 35. Et donc là, le chapitre 35, il faut noter le verset 23. Donc, 2 Chroniques, chapitre 34, verset 1, jusqu'à la fin du chapitre 34. Ensuite, notez le chapitre 35, verset 23. Excusez-moi un peu de la complication de cette annonce. Le prophète, c'était un nommé Jérémie. C'était un grand prophète. Et le roi, c'était Josias. Donc, chers amis, le quatrième, et on peut dire le dernier réveil, a eu lieu pendant la vie du roi Josias de Juda. De la même manière que le règne d'Ézéchias a été précédé par le règne du méchant roi Acha, ainsi celui de Josias a été précédé par deux années néfastes du règne de son père Amon. Les 12 années du règne de Manassé, qui était le père d'Amon, ont été encore plus néfastes. Fils d'Ézéchias, il a été le troisième roi de Juda. Sous Manassé, l'idolâtrie a été de nouveau en place. Et il alla jusqu'à élever un autel honorant les démons à l'intérieur du temple. 2 Chroniques, chapitre 33, verset 4. Toute religion était permise, hormis celle qui adorait le seul vrai Dieu. La tradition juive, elle enseigne qu'à cette époque-là, Ésaïe fut mis à mort en étant carrément scié en deux, alors qu'il était déjà d'âge avancé. Hébreux chapitre 11, verset 37. Les prophètes et les sacrificateurs furent tous persécutés. Dieu jugea le royaume au moyen de la colère du roi d'Assyrie. Et Jérusalem tomba alors aux mains de l'armée assyrienne. Sous le règne de son père, lorsque les Assyriens ont attaqué Jérusalem, Dieu l'avait miraculeusement sauvé. Le roi fut amené à Dieu, et là, on peut dire, il a été ramené, tout d'abord à Babylone, où il s'est enfin repenti. Je répète pour que ce soit mieux compris. Lorsque les Assyriens ont attaqué Jérusalem, Dieu l'avait miraculeusement sauvé. Et le roi fut donc amené à Babylone où il s'était heureusement repenti. Et à cause qu'il s'est repenti, il a été épargné. Et le roi d'Assyrie lui a permis de rentrer chez lui. C'était en quelque sorte un miracle. Il était complètement changé, mais son fils Amon ne s'améliora pas. Quoi qu'il en soit, ce fut donc Josias, petit-fils de Manassé, qui est devenu le roi de la Réformation. il avait seulement 8 ans, lorsque il a commencé son règne, et celui-ci a duré 31 ans. Pendant son règne, Jérémie avait prophétisé en Juda. Le réveil débuta lorsqu'il avait 26 ans, pendant la 18e année de son règne. Il commença par faire réparer la maison du Seigneur. La construction et la réparation sont toujours un signe de réveil. Et ceci fut inspiré de Dieu, car en réparant sa maison, ils ont même trouvé le livre de la loi et il a pu le donner à Chapan, qui était le scribe du roi, qui lui en rendit compte. 2 Rois chapitre 22, du verset 9 jusqu'au verset 11. Et lorsque le roi a entendu la parole de Dieu, il en a été tellement profondément touché. Et là, il a été convaincu par le Saint-Esprit. Il a même, écoutez bien, il a même déchiré ses vêtements. Ensuite, il a ordonné à son scribe et à ses serviteurs, « Consultez l'Éternel pour moi et pour le peuple, et même pour tout Juda, touchons les paroles de ce livre. » Verset 13. Il savait donc qu'à cause de leur grand péché, Dieu était en colère. Le Seigneur parla par la bouche de la prophétesse Hulda, selon le verset 14, jusqu'au verset 20. On a dit du 2 Rois chapitre 22, n'est-ce pas? Donc ici, on voit que le Seigneur a parlé par la bouche de la prophétesse Hulda, selon les versets 14 à 20. Ces messages étaient très très fermes, voire même très sévères. Mais il promettait aussi la miséricorde pendant son règne, parce que il s'était, voyez-vous, il s'était humilié et il s'était tourné vers Yahvé l'Éternel. Alors il s'ensuivit qu'il apporta la réforme et que Dieu a pu ainsi bénir son règne. Premièrement, il a rassemblé tous les anciens de Juda et de Jérusalem, les sacrificateurs et tout le peuple, les petits et les grands, et il leur a lu toute la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 23, versets 1 et 2. Deuxièmement, il a fait alliance devant Dieu pour lui ainsi que pour le peuple. Il s'est engagé à observer ses commandements et à observer ses lois. 2 Rois chapitre 23, verset 3. Troisièmement, il a ordonné que le temple soit purifié. Tous les ustensiles de Baal ont été ôtés et détruits par le feu, ce qui était parfait, et cela dans la vallée du Cédron. Et les cendres ont été portées à Bethel, qui était le lieu où avait été le fameux veau d'or. Quatrièmement, il prima les prophètes de Baal et tous ceux qui pratiquaient le culte du soleil, de la lune, des étoiles et même de l'armée des cieux. Deux Rois, chapitre 23, verset 5. Cinquièmement, il a détruit tout ce qui avait affaire au culte des idoles, y compris l'homosexualité et la prostitution, qui allaient toujours avec les religions païennes. Chers amis, sachez que quand des présidents et en plus des leaders religieux proclament et instaurent des nouvelles lois en faveur de l'homosexualité et tout le reste, et vous avez compris ce que je veux dire par tout le reste, eh bien le pire est à venir. Réfléchissez. Sixièmement, il a aboli les sacrifices d'enfants à Moloch. Deux Rois, chapitre 23, verset 10. Septièmement, je voulais dire par sacrifice d'enfants à Moloch. Savez-vous qu'il y a des centaines d'enfants qui disparaissent dans le monde pour être sacrifiés à Lucifer, à Satan? Croyez-le ou pas, c'est la vérité. Septièmement, il a démoli les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'achat, d'où les astrologues pouvaient observer les étoiles. Huitièmement, il a détruit tous les hauts lieux bâtis par Salomon pour les différents dieux. Deux Rois, chapitre 23, verset 13. Neuvièmement, il a passé la frontière et a démoli à Bethel l'autel qui avait été fait par Jéroboam pour le veau d'or, accomplissant ainsi la prophétie qui avait été faite 350 années auparavant, selon Deux Rois, chapitre 23, versets 15 et 16. Dixièmement, il a fait célébrer de nouveau la Pâque, et ce fut la plus grande fête pascale dans toute l'histoire d'Israël, selon Deux Chroniques, chapitre 35, verset 18. Onzièmement, il a exterminé les évocateurs d'esprit, tels que les sorciers et les sorcières, ainsi que tous les idoles. Deux Rois, chapitre 23, verset 24. Or aujourd'hui, tous ceux qui font de la sorcellerie, et pire encore, sont remis à l'honneur. Mauvais augure. Douzièmement, il se tourna de tout son cœur vers le Seigneur. Et treizièmement, dans Deux Chroniques au chapitre 35, verset 3, nous pouvons lire qu'il a remis l'arche sainte dans la maison du Seigneur et qu'il a dit au sacrificateur: vous n'avez pas à le porter sur l'épaule dorénavant. Bien sûr, personne n'est parfait, et moi le premier. Sa grande erreur, c'était comme conséquence, ou avait comme conséquence, sa mort. Sa mort, c'était la chose suivante: il s'était impliqué lorsque le roi Necho d'Égypte est monté pour faire la guerre au roi assyrien. Alors il s'était impliqué là pour aider ce roi. Ce roi Karkemish sur l'Euphrate. Oh, lorsque Josias est sorti à sa rencontre dans la vallée de Megiddo, ce mot Megiddo reviendra à la fin de notre dispensation des jugements terribles qui sont déjà en train de s'abattre sur cette planète. Eh bien là, les archers de l'armée égyptienne ont tiré sur lui et il était blessé à mort et il fut transporté à Jérusalem où il mourut. Jérémie, il était parmi ceux qui l'ont beaucoup pleuré. 2 Chroniques, chapitre 35, notez le verset 20 jusqu'au verset 25. Oui, chers amis, même les très grands hommes de Dieu peuvent se tromper, car nous sommes, hélas, pas infaillibles. Ce qui est triste, c'est que parfois, de grands hommes utilisés par Dieu commettent des erreurs qui finissent par les perdre. Premièrement, rappelez-vous que Élie, le plus grand prophète avec Moïse, s'est enfui loin de Jézabel après sa grande victoire sur le mont Carmel. Deuxièmement, nous avons Ézéchias qui a reçu les ambassadeurs des princes de Babylone. Ésaïe l'a repris et il a même mis en garde qu'un jour viendrait où il, au pluriel, emporterait ses fils en captivité. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 3. Et je me trompe. 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31. Et notez 2 Rois, chapitre 20, versets 12 à 18. Je répète, 2 Chroniques, chapitre 32, verset 31, et 2 Rois, chapitre 20, verset 12 jusqu'au verset 18. Troisièmement, quoique averti par Nécho de ne surtout pas se mêler de ses affaires, Josias s'ingéra malheureusement et fut tué dans la bataille malgré son déguisement. Bien qu'ils ne furent pas parfaits, nous non plus, Dieu s'est servi de tous ces grands hommes de Dieu pour apporter la réformation, la restauration et le réveil. Ce sont là les œuvres de tout grand revivaliste. C'est avec tristesse, bien entendu, c'est avec tristesse que nous devons constater, à part le réveil sous Élie, qu'aucun n'a eu lieu parmi les 10 tribus du nord d'Israël. Seul Judas a connu le véritable réveil accompagné de repentance. Dès le règne de Jéroboam, le royaume du nord était voué à l'idolâtrie, et ce ne fut que pendant le ministère prophétique d'Élie que la nation a eu en quelque sorte un répit. Chers amis, ainsi termine toute la compréhension des réveils qui ont eu lieu dans la durée de l'Ancien Testament, de la période de la loi. Nous entrons demain, Dieu voulant, dans la période de la grâce depuis Jésus-Christ. Je voudrais terminer maintenant, mais je voudrais, on pourra faire à la fois une prière, mais aussi en même temps, si vous le permettez, j'ai reçu ça dans le cœur pour vous le transmettre, quelques enseignements et encouragements. Nous allons donc, je vais donc essayer de vous donner cela comme je l'ai reçu. Habitez-vous au cours de vos journées à répéter fréquemment son saint nom. Car il est puissant. Il est puissant pour éloigner le mal et pour appeler la présence divine. Car Jésus, cela veut dire Yahvé sauve. Et en lui, vous avez de Dieu le Père, dans sa plénitude, ce qui peut être reçu par l'homme, de sorte que, en invoquant son saint nom, vous appelez à votre aide tout ce que vous avez besoin de recevoir de Dieu dans votre humaine condition. Entretenez-vous avec le Seigneur de la méconnaissance du monde à son égard. Et dites-lui que en compensation, vous lui apportez votre amour. Oui, un amour qui se veut compréhensif. Dites-lui que votre grand but dans la vie, c'est d'établir un pont entre lui et ceux que vous rencontrez et qui sont indifférents à son égard. Ressemblez à cet ami qui connaît bien un homme injustement condamné et qui, vous, aujourd'hui, il vous, toute sa vie, a essayé de le réhabiliter, qui compte pour rien toutes les difficultés et les peines, tous les malentendus et les fatigues ainsi encourues. Et cela jusqu'à ce qu'il soit parvenu à son but. Qu'il en soit donc ainsi pour vous, quand il s'agit de Jésus-Christ, de le faire connaître et aimer. Et vous pouvez donc, maintenant, selon ce que vous recevez dans votre cœur, faire une simple petite prière, toute simple, et le Seigneur vous entend, et il vous exauce, car il vous aime. Soyez aimés toujours, car le Seigneur est miséricordieux, plein d'amour pour ceux qui sont capables de s'humilier, de ne pas prétendre à plus qu'ils sont. Eh bien, c'est vrai. Un jour, le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, mais qui es-tu? Tu n'es, pour ainsi dire, rien, un grain de sable. Mais je t'ai sauvé, tu t'es perdu totalement. Et c'est vrai, je méritais, tenez-vous bien, s'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, si ça avait été dans le règne de Moïse, de la dispensation de la loi, j'allais tout droit en enfer. C'est grâce à l'amour du Père qui a envoyé son Fils bien-aimé pour nous tendre la main, pour nous proposer, par amour et miséricorde. Veuillez reconnaître simplement que vous êtes pécheur et de ce fait, vous êtes perdu. Mais si vous saisissez ma main que je vous tends, eh bien, comme le brigand à la croix, au dernier moment, on peut dire « Eureka », il a compris que Jésus-Christ était son sauveur et son Seigneur. Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Aujourd'hui même. Chers amis, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite, et nous verrons tout ce qui concerne le réveil depuis Jésus-Christ. À bientôt à nouveau, que le Seigneur vous bénisse richement. Au revoir.